I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed, or numbered. My life is my own.
Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast. Comme vous l'avez remarqué dans les derniers épisodes, je distance un peu les podcasts. Comme je vous ai dit, j'ai trop de projets en même temps. Surtout là, les gens écoutent à mesure que les podcasts sortent, on est dans les élections fédérales de 2021 et on fait chaque matin sur la chaîne YouTube de Yann Sénéchal des petits lives pour commenter ce qui se passe au niveau des élections. Donc j'ai moins le temps de m'adonner au podcast, j'ai le trio économique, j'ai quand même pas mal d'affaires, j'ai le Patreon. Donc, on distance un peu les podcasts, puis de toute façon, il y en a tellement, j'en ai quand même, je suis rendu à 100, 118, je pense, ou 117, donc ça vous en fait quand même pas mal à écouter s'il y en a que vous avez manqué. Cette semaine, je veux revenir sur un personnage dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, parce que honnêtement, je pense que c'est un des économistes, slash philosophes, slash penseurs, du 20e siècle, qui, à mon avis, est un des plus intéressants, un des plus importants, et c'est Murray Newton Rothbard. Donc, j'en ai parlé, c'est ça, dans plusieurs podcasts. J'ai fait parfois quand même assez référence. Donc, c'est qui ce gars-là? J'ai déjà fait sa biographie dans un autre podcast, mais au cas où vous l'auriez manqué, c'est le fondateur, ou disons en tout cas, c'est le père de ce qu'on appelle l'anarcho-capitalisme. Donc, c'est quoi l'anarcho-capitalisme? C'est l'idée que le plus possible, il faut éliminer les gouvernements avec des pouvoirs centraux et on remplace ça par des systèmes de propriété privée. Ça s'apparente à la pensée libertarienne. Ce serait quand même assez complexe d'expliquer en quoi c'est différent. C'est parce qu'il y a dans cette catégorie de penseurs-là des gens qu'on appelle les minarchistes, donc des gens qui pensent que le gouvernement est un peu nécessaire par la force des choses, mais il faut qu'il soit le plus petit possible et le plus minime possible. L'anarcho-capitaliste, c'est vraiment plus une forme, justement, comme son nom le dit, d'anarchisme, de philosophie anarchiste, où le gouvernement est vu comme plutôt quelque chose de quand même assez mauvais. Donc, il y a quand même deux tendances, hein, comme je l'ai dit, les anarchistes et les minarchistes. Ça serait compliqué de trop aller dans le détail de tout ça. Mais bref, c'est ça. C'était tout ça pour dire que Rothbard est le fondateur de cette école de pensée-là. Il va entretenir aussi quand même des rapports avec Ayn Rand, dont j'ai parlé plusieurs fois là, dans ce podcast-là, dont deux podcasts exclusivement sur elle. Plusieurs personnes s'en revendiquent de différents courants. Il est aussi assez proche d'un autre personnage dont j'ai déjà parlé, qui est Ludwig von Mises. Donc, ou Mises, là, je ne sais jamais exactement comment il faut prononcer ce nom-là, qui était un peu son mentor intellectuel. Donc, Murray Rothbard, c'est un Américain issu d'immigrants juifs qui venaient de Pologne et de Russie dans les années 20. Rothbard dit lui-même qu'il vient d'une famille quand même assez, plutôt des gens qui étaient de droite, assez anticommunistes, hein, justement, ils ont fui l'Europe. C'était très typique de l'époque, exactement comme Ayn Rand, que je vous avais raconté l'histoire de son père, pharmacien, qui s'est fait piquer sa pharmacie par le gouvernement quand il y a eu la révolution russe. Ils sont venus aux États-Unis, donc c'est quand même assez dramatique, hein, les gens qui ont... On n'a pas... En fait, toute cette tradition-là de, je dirais, libertarienne ou anarcho-capitaliste. En fait, on peut l'avoir sous plusieurs angles, puis il y a plusieurs écoles là-dedans. Mais grosso modo, avec Isabelle Patterson, avec Murray Rothbard, avec Rose Wilderlin, Ayn Rand, tous ces gens-là ont un peu ce point-là en commun, hein, d'avoir été excessivement menacés ou de s'être senti menacés par ce qui se passait en Europe avec l'arrivée du socialisme triomphant de l'époque. Donc Rothbard, lui, il va aller à l'université, il va faire l'équivalent d'un bac ici en mathématiques et il va obtenir son PhD en économie en 1956. Donc, tout ce qui est de plus classique, les mathématiques, l'économie, il va assez tôt, hein, quand même, déjà même dans les années 40, avant d'avoir son diplôme d'économie, il va lire des choses qui sont, disons, plus orientées vers l'idéologie ou le courant libertarien. Donc, il va lire Isabelle Patterson, comme je l'ai dit, Albert G. Nock, Garrett Garrett, et évidemment Ludwig von Mises, qui va devenir son maître à penser. Rothbard va se marier avec Joanne Béatrice Schumacher dans les années 50. Ils vont faire une famille ensemble, ils vont vivre leur vie quand même assez tranquillement. Rothbard va enseigner pendant assez longtemps à l'université, bref, entre autres à l'Université du Nevada à Las Vegas. Il va avoir avec lui quelqu'un qui va être son protégé quand même assez longtemps, qui va s'appeler, c'est un personnage dont je reparlerai dans un prochain podcast, qui s'appelle Hans Hermann Hoppe, ou Hoppe. Lui aussi va avoir une influence quand même assez importante sur ce qui se passe dans le 20e siècle. Donc, c'est des gens qui se rapprochent de ce qu'on appelle l'école autrichienne en économie et en philosophie aussi. J'ai déjà expliqué dans un autre podcast en quoi ça consistait. Je ne reviendrai pas dans les détails là-dessus, mais c'est juste pour vous mettre un peu en contexte. Ça va être évidemment un anti-marxiste quand même assez carabiné. Rothbard, il va écrire plein de choses. Donc, dans un autre podcast, j'avais parlé un peu de son livre, le Manifeste libertarien, hein, For a New Liberty, qui a écrit, attendez, j'ai pris quelques notes ici, qui a écrit For a New Liberty, ça doit être en 1973. Donc c'est ça, en 1973, en fait, il écrit beaucoup de choses, hein, Murray Rothbard, il a écrit Man, Economy and State, America's Great Depression, Power and Market, For a New Liberty, Egalitarian as a Revolt Against Nature, The Ethic of Liberty, The Mystery of Banking. En tout cas, il a écrit plein d'affaires et il écrit aussi un petit texte qui s'appelle Anatomy of the State. Ça, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Ça, en livre audio, dans le fond, ça dure une heure. C'est quand même pas un grand texte. Il y a peut-être 60 pages là, à peu près. C'est pas écrit très petit. En fait, c'est Jonathan Hamel qui m'a fait penser, qui m'a envoyé le lien de ce texte-là que j'avais déjà vu passer un moment donné, mais je ne l'avais jamais lu. Je l'ai lu dans les derniers jours, puis je l' ai trouvé. En fait, je me suis dit, comment ça se fait que je ne suis pas tombé sur ce livre-là avant? Parce qu'on parle souvent de, bon, on critique le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement a fait? On parle de, bon, la vision étatiste, la vision collectiviste, de la réalité, de la vie. On le dénonce, on essaie de le comprendre. Mais en réalité, je ne m'étais jamais vraiment arrêté à l'État comme tel, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le gouvernement? Qu'est-ce que cette entité-là? D'ailleurs, les deux sont quand même assez différentes parce que l'État est là avant le gouvernement. C'est-à-dire, pas dans le temps, mais je veux dire, on peut changer de gouvernement, quelqu'un peut se faire défaire, il y a des gens d'autres élus, mais l'État, lui, reste toujours là. Donc, l'appareil de l'État, le corps de fonctionnaires, l'appareil de loi, tout ce genre de choses-là, ça reste là, puis c'est le gouvernement qui change. Donc, qu'est-ce que c'est que l'État dans sa philosophie à lui? C'est ce qu'on va voir là-dedans. Donc, de son vivant, hein, Rothbard, il est connu comme le plus grand ennemi, justement, de l'État. C'est pour ça que c'est intéressant de voir ce que lui en dit. Contrairement, par exemple, en fait, c'est un peu comme une antithèse au marxisme, parce que, justement, dans le Manifeste communiste, qui est un autre parti, qui est un autre podcast que j'avais fait, j'expliquais comment Marx voyait l'État comme un instrument pour arriver à la société qui s'enclasse. Qu'à un moment donné, il y a un genre d'abolition de l'État dans l'idéal communiste, mais dans la phase intermédiaire qui est la dictature du prolétariat, le peuple est gouverné par un État fort et puissant, bon, etc. On comprend ce qui est arrivé dans l'Union soviétique. Donc, ce petit, je ne sais pas si on peut appeler ça un livre, mais ce texte-là, c'est sa déclaration la plus puissante à propos de ce sujet-là. Ça, c'est sûr, il explique là-dedans que c'est qu'est-ce que c'est qu'un État, qu'est-ce que ça n'est pas non plus. Et ils vont montrer comment cette institution-là, en fait, viole tout ce qu'on considère comme honnête et moral, puis il fonctionne souvent sous de faux prétextes. Il va montrer comment l'État détruit la liberté, détruit même la civilisation d'une certaine manière, menace la vie, le bien-être social de tout le monde, couvert, bien sûr, de bonnes intentions. Un peu ce que je disais, probablement que c'est peut-être ce qui l'a inspiré dans le texte de Rose Wilder Lane. Donc, c'était dans le texte d'Isabelle Patterson, dans The God of the Machine, quand elle explique que les pires choses ont toujours été faites au nom du bien dans l'histoire humaine. Donc, la fois, vous remontez à l'esclavage qu'il y a eu en Égypte, ben, les gens ne faisaient pas ça au nom d'être pas fin envers les esclaves. Ils faisaient ça au nom de la grandeur du pharaon, de je sais pas quoi. C'est toujours au nom d'une espèce de bien commun qui est exalté comme un idéal. Donc, ce petit texte-là est publié en 1974. On sait peu de choses hein, sur le... En fait, j'ai essayé de fouiller, voir un peu le contexte de ce texte-là. C'est peut-être quelque chose qui est tiré d'un autre ouvrage, mais c'est un petit texte qui est publié en 1974. Puis je vais direct dans le détail. On ne perdra pas trop de temps avec les détails de la publication. Donc, il commence en disant, bon, entendons-nous sur qu'est-ce que l'État n'est pas. Il va dire, ben en fait, si on part du point de vue, hein, il dit, si vous vous intéressez pas trop au sujet, mais si je vous le demande, je vous pose la question, c'est quoi le gouvernement, c'est quoi l'État? Ben, en général, les gens considèrent que l'État, le gouvernement, c'est une entité sociale universellement considérée comme quelque chose qui donne des services. Bon, ben l'État est là. Bon, l'État, c'est quoi? Ben, c'est quand je vais pour plaquer mon char, il y a quelqu'un qui représente l'État et qui me donne une plaque. OK. L'État, c'est quoi? C'est les policiers qui font respecter la loi. OK. L'État, c'est quoi? Quand je vais au palais de justice, il y a telle affaire. Ben, c'est comme ça qu'on considère. On considère ça comme une espèce d'institution qui est par-dessus la société puis qui donne des services. Il y en a qui voient dans l'État une espèce d'apothéose de la société. Donc, dans le fond, la preuve d'une civilisation ou d'une société avancée, c'est qu'il y a un État développé. Puis ils vont dire, ben regardez, dans les pays tout croche, ben il n'y a pas vraiment d'État, c'est un peu n'importe quoi, c'est l'anarchie. Au contraire, dans les États développés, il y a un gros gouvernement qui prend en charge les citoyens, leurs besoins, etc., etc. Puis il dit, il y a d'autres gens qui considèrent comme, bon, c'est une organisation plus correcte, aimable, là, sans trop qu'on soit enchanté par ça. Puis il la voit comme quelque chose d'assez inefficace pour atteindre des fins sociales. Mais il va dire, ces deux catégories de gens-là voient tous les deux l'État comme un moyen quand même nécessaire pour atteindre des objectifs, en tout cas de la société ou de l'humanité. Et généralement, ils l'opposent au secteur privé. Ça, on le voit dans le discours, les gens, « Bon, ouais, mais là, le privé, ils ne peuvent pas s'occuper de ça. Il faudrait que le gouvernement nationalise ça, etc., etc. » La démocratie, qu'est-ce que ça a amené dans l'histoire? C'est qu'on a identifié l'État à la société. Donc, dans le fond, quand on pense à la France, bien, une des premières choses qui nous vient en tête, c'est le gouvernement français, c'est Emmanuel Macron, c'est... dans le temps, François Hollande, Sarkozy, etc. Donc, c'est ça qui nous vient en tête quand on y pense. Quand on pense aux États-Unis, on voit tout de suite l'image de l'armée américaine, l'État américain, le président des États-Unis. Donc, il dit l'identification de la société avec son État, avec son gouvernement, c'est exacerbé avec l'arrivée de la démocratie. Il dit l'autre chose que l'État n'est pas. Ça, il faut se le mettre dans la tête, c'est une affaire que j'entendais souvent quand j'étais jeune. C'est comme par exemple, on dit « Ah, mais la dette, c'est pas grave parce que c'est le gouvernement qui est endetté envers les individus qui ont acheté des bons du trésor. Et le gouvernement, ben c'est nous. Donc, dans le fond, on se doit de l'argent à nous-mêmes. » Mais il dit « L'idée que nous sommes ou que vous êtes le gouvernement est complètement stupide. » Il dit « Si vous suivez ce raisonnement-là, les Juifs qui ont été assassinés par les nazis, dans le fond, ils n'ont pas vraiment été assassinés. C'est juste qu'ils se sont suicidés parce que, dans le fond, ils ont été assassinés. T'sais, dans le fond, c'est eux-mêmes. Le gouvernement, c'était eux-mêmes aussi, vu qu'ils étaient citoyens allemands. Ils voyaient bien que ça fait aucun sens. Là. Ça fait aucun sens. Puis on peut pas dire que c'est un acte volontaire non plus. Si le gouvernement vous prend, vous met en prison, vous allez vous rendre compte que le gouvernement, c'est pas vous. Donc, tu sais, c'est un peu ça l'idée. Il dit, je le cite dans le texte, il dit « We must therefore emphasize that we are not the government. The government is not us. The government does not in any accurate sense represent the majority of people. And even if 70% of the people decide to murder the remaining 30%, this will still be murder and will not be voluntary suicide on the part of the slaughtered minority. » Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, vous, arrêtez de dire ça, que vous êtes le gouvernement. Vous n'êtes pas le gouvernement. Si le gouvernement décide d'exclure une partie de la population, jamais on va pouvoir dire que ces gens-là l'ont, que c'est justifiable de le faire parce que le gouvernement, c'est eux. Donc, c'est le gouvernement, c'est nous ne sommes pas le gouvernement. L'État, ce n'est pas nous. En fait, on le voit, je pense, ici avec des entités comme Hydro-Québec. Ah oui, mais c'est à nous autres, ça. C'est pas vraiment à vous autres. Essayez d'y aller, de rentrer, puis dites, hey, mais si je peux rentrer, c'est à moi. Non, c'est pas à toi. Ils vont te le faire comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on raconte jusqu'à présent? Donc, l'État, ce n'est pas les citoyens. Et on raconte qu'il y a deux conceptions que les gens ont. Lui, là, on va voir pourquoi c'est pas vrai. Donc, l'État n'est ni quelque chose de. L'État n'est pas la société et l'État n'est pas non plus un pourvoyeur de services puis, qui est au-dessus de la société. Donc, qu'est-ce que c'est que l'État? Deuxième partie du texte. Il dit « L'État est cette organisation de la société qui tente de maintenir un monopole de l'usage de la force et de la violence dans une zone territoriale donnée. » Là, il dit en particulier, c'est la seule organisation dans la société qui obtient ses revenus non pas par une contribution volontaire ou le paiement de services rendus, mais par la coercition. Donc, dans la société, là, il n'y a aucune autre entité, organisation que le gouvernement qui, bon ben, je ne sais pas moi, c'est impossible qu'un fournisseur de télécom de câbles ou d'Internet arrive chez vous et dise ben, tu prends pas notre service hein, puis tu veux pas l'avoir, mais tu nous dois quand même 100$ par mois. Ben, tu dis ben, là, moi, j'ai pas ton service, puis je t'ai pas demandé, puis by the way, j'étais chez nous, faut qu'il sorte de chez nous. T'sais. Mais le gouvernement, lui, s'il décide que tu lui dois de l'argent, il n'y a pas de justification à donner. Puis il t'a pas donné de service en retour, il t'a pas demandé ton avis, il n'y a pas de volontariat là-dedans. Ça fonctionne un peu comme la mafia. T'sais, c'est ah ouais, vous avez un restaurant, ouais. Ben, si vous voulez que continuer d'être en sécurité, il va falloir nous payer parce que il pourrait y avoir des gens qui viennent dans votre restaurant puis pourriez être en danger. Ben, c'est un peu la même mécanique. Donc, dans la nature. Donc, si on remonte à comment était l'homme au début, le seul moyen naturel pour l'homme de survivre et d'atteindre la richesse, c'est quoi? Donc, dans le fond, vous êtes dans la nature. Là. Imaginez-vous, là, vous êtes à l'époque de l'homme un peu préhistorique que je raconte dans Sapiens. Là. Puis là, vous voulez survivre. Qu'est-ce que vous devez faire pour survivre? Vous devez utiliser votre cerveau et votre énergie pour vous engager dans un processus où vous allez collaborer avec les autres, échanger avec les autres. C'est pour ça que l'idée de dire que ah oui, mais les gens qui sont plus à droite, là, ils sont individualistes, puis ils pensent que les gens peuvent vivre là, isolés du monde, puis pas être en communication avec personne, puis aider personne, c'est pas vraiment ça que ça dit. C'est, l'idée, c'est que dans le monde originel, si vous remontez, je sais pas moi, de 100 000 ans, là, l'humain tel qu'il était à ce moment-là, ben, pour survivre, il est en groupe. Puis il fonctionne en groupe. Il utilise son cerveau, il utilise son énergie, puis ça, puis il s'engage dans un processus où, bon, ben moi, j'ai taillé une roche, toi, t'as taillé un petit bâton, on s'échange-tu nos affaires. Puis il décrit ce processus-là. Il dit, bon, ben d'abord, on trouve des ressources naturelles, on les transforme avec l'aide de son travail. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en fait notre propriété. Donc, c'est comme ça que le système, entre guillemets, c'est comme ça que le capitalisme naît. C'est que L'humain, bon, il sert de son sabre. Alors là, parce que là, pour chasser tel animal, j'aurais besoin de quelque chose de pointu pour le. Bon, fait que là, je vais gosser une perche, puis je vais faire un bout de pointu, puis là, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et cette perche-là est à moi. Elle est pas aux autres. Elle est à moi. C'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui ai travaillé pour le faire. Donc, c'est comme ça que la propriété naît d'une certaine manière. Donc, la voie un peu naturelle de ça, c'est qu'au fil du temps, qu'est-ce qui se développe? Il se développe un jour ce qu'on appelle les droits de propriété. Donc, on reconnaît, puis ça, ça vient pas nécessairement avec la société de droit moderne, ça vient même, je veux dire, au Moyen-Âge, les gens avaient des propriétés, puis avaient des droits là-dessus. Cette terre-là est à moi, cette affaire-là est à moi, ça, c'est à toi, c'est pas à moi, c'est à toi. Et il y a aussi l'exigence d'un marché plus libre. Donc, on échange, on produit, on communique avec les autres, on travaille avec les autres. C'est comme, un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, il dit, par ce chemin, les hommes ont appris à éviter les méthodes de la jungle. Donc, c'est un peu ce que tout le monde reproche aux libéraux, c'est de dire, ben oui, mais vous, là, vous êtes pour ça, là, la société, là, où c'était au plus fort la poche, puis tout le monde était les uns contre les autres. Mais, ça veut dire, mais les êtres humains, naturellement, s'auto-régulent. La loi de la jungle, de tous contre tous, c'est ça, ça mène à la fin de la société. Les êtres humains n'ont pas avantage. Ben oui, il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont jouer dans le dos des autres, il y en a qui vont mentir, il y en a qui vont voler, oui. Mais ils vont être aussi châtiés par le groupe, châtiés par la société dans laquelle ils vont vivre, puis éventuellement, ils vont être exclus ou ils vont être abattus. C'est comme ça que ça marchait à l'époque. Donc, l'avantage des hommes, c'est quoi? C'est d'éviter cette vie-là, d'espèce de lutte sempiternelle pour les ressources. Donc, les hommes, après éviter les méthodes de la jungle, de lutte pour les ressources, afin que A ne puisse pas acquérir les ressources aux dépens de B et au contraire à multiplier ces ressources-là dans un processus d'échange pacifique et harmonieux. Donc, autrement dit, moi, je travaille, moi, j'ai telle affaire, toi, tu as telle affaire. Mais notre avantage, c'est qu'on communique ensemble, que toi, tu as taillé 6 pierres, moi, j'ai taillé 6 bâtons. Mais notre avantage, ce serait d'avoir chacun 3 bâtons et 3 pierres. Donc, notre avantage, c'est de y aller ensemble. Puis là, il va dire, il y a deux manières d'acquérir la richesse pour l'homme. Il dit celle que je viens de décrire et la suivante. L'autre méthode est plus simple, dans la mesure où elle ne nécessite pas de productivité. C'est le moyen de saisir les biens ou les services d'autrui par l'usage de la force et de la violence. Il dit c'est la méthode de la confiscation unilatérale, du vol de la propriété d'autrui. Il dit, il y a ces deux méthodes-là, il y en a une que j'appellerais économique et l'autre, je l'appellerais politique. Donc, vous imaginez, vous êtes dans le monde des humains, mais au Moyen-Âge ou peu importe, là, dans le passé. Là. Et là, il y a des gens qui vivent entre eux autres, puis il y a des gens qui produisent puis acquérir de la richesse. Bon, moi, j'ai produit ça, je te l'échange, en échange de ça, je vais échanger ça contre une chèvre ou même plus tard à compte de l'argent. Et qui réussit à s'enrichir sur le dos des autres sans rien faire, c'est celui qui arrive par la force. C'est le viking qui envahit le village, c'est le monarque de telle place qui arrive, qui dit « Bon, ben c'est le fun, hein? Vous ici, vous êtes désormais mes sujets, puis vous travaillez la terre, puis vous me donnez des affaires, puis pendant ce temps-là, moi, je mange des raisins, puis je fourre des prostituées dans mon palais. Ben, » c'est un peu ça l'idée. Donc, il dit ça, c'est quoi? C'est la méthode politique. C'est la méthode d'asseoir une servitude sur des gens et de vivre aux dépens d'eux. Il dit, ben malheureusement, l'État, bon, par les moyens politiques, par la méthode politique, qu'est-ce qu'il fait? Ben il siphonne la production des individus vers un autre individu ou un groupe parasitaire. Puis il dit, ce siphonnage non seulement soustrait au nombre de producteurs, mais diminue également l'incitation du producteur à produire au-delà de sa propre subsistance. À long terme, le voleur détruit sa propre subsistance en diminuant ou en éliminant la source de son propre approvisionnement. Mais pas seulement ça. Même à court terme, le prédateur agit contrairement à sa vraie nature d'homme. Donc, il dit, en plus, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme les barbares ou les conquérants de l'ancien temps. Il arrive, il dit, bon, ben vous êtes mes sujets, puis vous me devez tant d'argent, vous devez payer vos impôts, vos taxes, vos affaires, puis ce que ça vous plaise ou pas, vous devez le faire, sinon on vous poursuit, on vous met en prison, on vous abat, ou peu importe. Mais là, il dit, ben en réalité, quand il fait ça, il crée un système où tu n'as pas d'avantage nécessairement à devenir plus riche et à te servir de ton cerveau pour aller plus loin, parce que les gens savent qu'ils vont être spoliés par le parasite qui est là. Bon, ben là, il dit ça, c'est même contraire à sa propre... En fait, c'est même contraire à son propre avantage, parce que lui, à un moment donné, il va manquer de ressources, parce que à un moment donné, il va arriver à un stade où vous allez dire, bon, ben, moi, je vais juste plus travailler. En fait, c'est ce qui est arrivé dans l'Union soviétique. On sait que c'est ça la limite, en fait. C'est que quand la personne travaille, ça fait 60 ans, que ça fait 40 ans que tu travailles dans une usine de montage, dans une cochonnerie en URSS. Là, tu dis, ouais, la société qui s'enclasse, ça arrive-tu? Ça fait 40 ans, moi, que je travaille dans une usine de merde, mal payée. Puis là, maintenant, tu vois l'élite en haut de toi. Il y a une espèce de bonhomme bizarre qui arrive faire une déclaration. Il y a un casque en poêle, puis il va se promener à l'ONU ou je sais pas trop où, prendre des photos avec les autres dirigeants du monde, puis toi, ben, tu crèves de faim parce que toutes tes ressources sont spoliées pour aller dans l'appareil d'État. Donc, si on raffine la définition de l'État, qu'est-ce que c'est que l'État? Là, il cite un auteur qui s'appelle Oppenheimer, qui paraphrase un peu. Il dit « L'État, c'est quoi? C'est l'organisation des moyens politiques, deux points. C'est la systématisation du processus prédateur sur un territoire donné. » Donc là, on aime ça, là, c'est un peu un mot à la mode, systémique. Mais il dit en fait, l'État, c'est quoi? C'est un prédateur systémique. C'est que c'est un prédateur qui a instauré un système où c'est pratiquement impossible de vivre à l'extérieur du système, où les gens, en retour de rien, ah oui, mais vous avez un panier de services, tout droit, mais même si tu ne l'utilises jamais et tu n'as pas accès pour toutes sortes de raisons, tu es obligé de payer pareil. Donc, c'est un système de spoliation, de prédation. Et c'est intéressant dans ce texte-là parce qu'il remet en cause vraiment l'idée du contrat social. Bon, le contrat social, c'est quoi? C'est un peu ce qui a été pensé par Jean-Jacques Rousseau, puis par Thomas Hobbes, puis par plusieurs autres penseurs qui ont eu lieu dans l'histoire. C'est l'idée que dans la nature, là, les êtres humains vivaient dans une espèce d'état de... Ben, Hobbes disait l'homme est un loup pour l'homme. C'est dans un monde où il y a de la violence, puis c'est un peu l'anarchie, puis c'est un peu le chaos. Là, je paraphrase, je sais que c'est pas ça que tous ces auteurs-là disaient, les penseurs du contrat social, mais c'est l'idée que les gens, à un moment donné, se dotent par contrat d'une espèce d'organisation qui est supérieure et qui garantit le bien-vivre, dans le fond, qui garantit que tout le monde peut vivre ensemble dans le respect de tout un chacun, etc., etc., dans différentes modalités. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrat social. Je le résume très brièvement. Mais par exemple, Rousseau disait « la liberté, c'est quoi? » C'est presque une phrase d'esclave. Il disait « la liberté, c'est de consentir à la loi qu'on s'est soi-même prescrit. » Bon, mais Rothbard lui dit « oui, mais ça n'est jamais arrivé. » Ça n'est jamais, historiquement, ça n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu de moment où les humains vivent ensemble. Puis il dit, savez-vous quoi? On devrait faire un genre de contrat ensemble. Puis on va créer quelque chose de supérieur. On va appeler ça comme l'État ou le gouvernement ou la cité ou peu importe. Puis ben, ça va décider pour nous. Puis on va collecter, tout le monde va cotiser. Puis ensemble, on va pouvoir faire des routes. Puis non, il dit, ça ne s'est jamais vraiment passé comme ça. Pourquoi ça s'est jamais passé comme ça? Il dit, ben parce que si l'État siphonne la production, ben la production que les gens font doit être antérieure à ça. Parce que l'État, il ne peut pas voler quelque chose qui n'existe pas. Donc, il dit, par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement n'a jamais émergé d'une espèce de contrat social. Il est forcément né par la conquête et l'exploitation. Autrement dit, l'État français, là, le gouvernement français, l'État français, c'est né de quoi à la base? Si on retourne, c'est né de quoi? Ben, c'est né comme année, il y a une espèce de chef qui est là, qui est gaulois ou je ne sais pas trop quoi. Il y a la conquête romaine qui arrive, puis un jour, il y a un chef qui est plus puissant que tout le monde, il domine tout le monde, puis on le couronne roi des Francs. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? On crée une monarchie, on crée toute une patente, ça débouche un jour à la Révolution française, à l'Empire, etc. Et ça donne la République, puis un jour, ça donne Macron. Non, bien, historiquement, il n'y a jamais eu de contrôle, il n'y a jamais eu de citoyens qui ont été sondés, il n'y a rien de tout ça qui est arrivé démocratiquement ou sur la base d'un contrat signé en bonne et due forme entre deux parties consentantes. Non, ça s'est fait par la force et par l'exploitation. Puis c'est vrai pour tous les États dans le monde. Il dit, pensez-vous vraiment que les Romains ont passé un contrat avec les Gaulois? Mais non, c'est l'armée qui arrive, collecte l'impôt, puis c'est après pour te convaincre qu'ils te disent ouais, mais ça, c'est ton dû pour César, puis c'est fait pour payer les routes, là, t'aimes ça, te promener dehors, regarde, il y a une route là-bas. C'est nous autres qui l'a fait, fait que donne-moi de l'argent. Ouais, mais si je veux pas, ben si je veux pas, on te prend, puis on met ta tête au bout d'un pic. Ben, c'est un peu comme ça. Donc, d'un point de vue historique, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'une tribu conquérante finit par se rendre compte à un moment donné que, ouais, ben là, au début, on arrivait dans le village, puis on tuait tout le monde, puis après ça, on s'emparait de la terre. Mais ce serait bien mieux, puis bien plus facile si on les laissait vivre, mais qu'on leur disait de travailler pour nous. Donc, c'est probablement comme ça, en fait, que ça s'est fait d'un point de vue historique. C'est qu'à un moment donné, les gens qui conquéraient se servaient. En fait, tout ça un peu émerge de l'esclavage, si on veut. Il dit de ce constat-là. Donc, là, l'État, qu'est-ce qu'il fait pour se protéger? Pour rester en fonction, le gouvernement, tout gouvernement, qu'il soit démocratique ou pas, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il doit avoir le soutien de la majorité de ses sujets ou de ses citoyens, si on veut être gentil. Il dit ce soutien, ben, il n'a pas besoin de passer par un enthousiasme actif. Là. C'est pas obligé d'être les gens qui pleurent parce que le gars de la Corée du Nord est mort puis ils se font tous faire la même coupe de cheveux que lui. C'est pas ça. Là. C'est que ça peut être une forme de résignation passive. Puis c'est drôle, ça m'a fait penser à la fameuse phrase qu'on entend tout le temps. « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et on n'a pas le choix, c'est comme ça. Bon, ben, il dit, en fait, ça, c'est une forme de résignation. C'est l'idée que, ben, de toute façon, c'est comme ça, puis ça peut pas être autrement que ça. Donc, ça, dans le fond, c'est une forme de soutien dont les gouvernements, en fait, les gouvernements ont absolument besoin que les gens pensent comme ça. La tâche principale des gouvernants, c'est quoi? C'est de toujours obtenir l'acceptation active ou au moins résignée d'une majorité des citoyens. Donc, la majorité des citoyens doit être persuadée comment. Par l'idéologie, par, par le message qui est véhiculé par le gouvernement, que le gouvernement est bon, qu'il est sage, ou au moins qu'on ne peut pas l'éviter, parce qu'on en a besoin pour, un peu ce que je disais au début, les deux idées. C'est soit on l'aime, soit on dit, ben ouais, mais de toute façon, on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y en avait pas, la police, etc. Et aussi, l'idée qui est très efficace, c'est toujours de laisser penser qu'il est toujours la meilleure alternative imaginable. Donc, c'est l'idée de dire, ça change. De toute façon, oui, OK, t'as raison, mais t'as raison quand tu dis telle affaire sur le gouvernement. Tout, mais hein, s'il n'y en avait pas, ce serait l'anarchie, ce serait l'état de tous contre tous. On serait victimes les uns des autres, les gens s'entretueraient, etc. Bon, on voit un peu cette idée-là qui est illustrée dans. Je ne sais pas si vous écoutez beaucoup de séries ou de films dystopiques, mais on le voit, hein, c'est. Quand il arrive une situation où, je ne sais pas, moi, il y a un cataclysme naturel ou il y en a fort, vous remarquerez que le comportement des gens est toujours mis en fonction, est toujours illustré de manière telle que quand le gouvernement n'existe plus, ça devient un état complètement détraqué où tout le monde. Se s'entretuent les uns les autres, puis l'autre vole l'autre, puis là, tout le monde devient comme un peu des barbares, puis c'est un peu cette idée-là. En fait, c'est nous qui avons intériorisé cette idée-là que, en dehors, si on veut de l'État, il n'y a point de salut, hein, que c'est la vie de l'homme est un loup pour l'homme. Et il va dire, promouvoir cette idéologie-là, en fait, c'est la tâche sociale et vitale des intellectuels. Ça, c'est, je veux dire, c'est le bout le plus savoureux du texte. Il dit, c'est évident que l'État a besoin des intellectuels. Il n'est pas si évident du pourquoi ceux-ci ont besoin de l'État. Mais en termes simples, il dit, nous pouvons affirmer que la subsistance de l'intellectuel sur le marché libre n'est jamais trop sûre. Car il doit dépendre des valeurs et des choix des masses et de ses semblables. Et c'est précisément la caractéristique des masses qu'elles ne s'intéressent généralement pas aux questions intellectuelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, ben, je ne sais pas, moi, vous êtes anthropologue. La réalité, c'est que la majorité des gens n'en ont rien à crisser de l'anthropologie. En fait, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ah oui, moi, je suis anthropologue. Ouais, mais c'est qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce qu'il raconte Rothbard? C'est qu'il dit, ben, si l'État n'existe pas, les intellectuels, ben, en fait, il y en aurait beaucoup moins ou il n'y en aurait peut-être pas du tout parce que la masse comme telle qui a des besoins, bon, ben, de se divertir, de peu importe, de manger, de boire, de dormir, etc., des besoins de base puis des besoins plus courants, ben, a souvent assez peu d'intérêt pour les trucs intellectuels. Donc, ces gens-là survivraient quand même assez difficilement dans un marché libre où il n'y a pas, par exemple, l'État qui valorise les musées ou la recherche universitaire, ce genre de choses-là. En tout cas, ce serait beaucoup moins présent. Donc, l'État a besoin des intellectuels et les intellectuels ont généralement besoin de l'État aussi. Il dit, ben en fait, autrement dit, c'est quoi? C'est que sans l'État, les intellectuels auraient du mal à survivre parce que ce qu'ils produisent n'intéresse pas les masses ou n'intéresse pas une masse critique qui permet de générer des revenus qui permet à beaucoup de gens de vivre de ça. Bon, ben l'exemple classique de cette union-là, dans le fond, au niveau de l'idéologie, auquel vous pouvez penser la plus évidente, c'est le rôle passé de l'Église dans nos sociétés. Donc, en réalité, un curé, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Mais dans un contexte où l'État est là, puis bon, on confie aux communautés religieuses la gestion des hôpitaux, des écoles, on lui dit c'est important, les gens vont à l'église, tout ça. Bon, ben là, leur rôle devient excessivement important dans la société, leur influence aussi devient excessivement importante. Mais dans l'absolu, je veux dire, quelqu'un qui dit, ben moi, que c'est mes skills, c'est quoi si je connais la Bible? Mais c'est inutile dans un monde où cette institution-là n'existe pas. Mais on pourrait prendre aussi toutes sortes d'autres exemples, mais je pense que celui-là, c'est le plus évident. Il dit une autre manière qu'a l'État pour se protéger, c'est de répandre la peur d'un système alternatif. Et il dit là-dessus, les intellectuels jouent un rôle important. Bon, ben ça, c'est vrai dans tous les sens. Hein. Ça a été vrai des intellectuels américains qui répandaient toujours un peu la peur qu'un système communiste arrive, mais c'est aussi vrai dans les régimes socialistes où on nageait toujours l'épouvantail du privé. On le voit ici en ce moment. Ah oui, ils veulent privatiser le système de santé, c'est dangereux. Donc, c'est toujours l'idée qu'un système alternatif est mauvais et dommageable, va être épouvantable pour les gens. Donc ça fait partie des techniques aussi. Une autre doctrine assez fondamentale de l'État pour s'identifier ou se justifier, c'est de s'identifier au territoire qu'il gouverne. Donc, il dit, en fait, la plupart des hommes ont comme une tendance naturelle, hommes avec un grand H, ont une tendance naturelle à aimer leur patrie, à aimer leur patelin. Moi, je viens de là, je suis un petit gars de telle place, je suis une petite fille de telle place. Donc, il dit, l'identification de cette terre-là, de ce territoire-là, avec ses habitants et avec l'État, c'est un moyen pour faire fonctionner un patriotisme qui est assez naturel et qui, ça, avantage l'État. Donc, c'est pour ça que les guerres, en fait, sont souvent assez utiles pour les gouvernements pour se maintenir en place, parce que les gens, comme ils aiment leur terre, ils se sentent attaqués. Et quand on se sent attaqué, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à se défendre, puis on voit que l'instrument pour se défendre, ben, c'est l'État. Donc l'État, c'est ce qui va défendre ce qu'on aime. Donc on aime notre terre, on aime notre coin de pays. En fait, qu'à chaque fois qu'il y a des périodes d'instabilité, de guerre, tout ça, c'est toujours des moments où il y a une frénésie patriotique, là. Donc, un autre moyen aussi, ça va être évidemment d'instiguer la peur des dirigeants des autres pays. Bon, un tel, c'est un malade, il va nous envahir. Donc, ça, c'était très présent dans l'Antiquité, au Moyen-Âge aussi. La peur des Anglais, la peur de ci, la peur de ça. Et il va dire, le plus grand danger pour l'État, c'est la critique intellectuelle indépendante. Il dit, il n'y a pas de meilleur moyen d'étouffer cette critique que de s'attaquer à toute voix isolée, à toute hauteur de nouveaux doutes, comme un violeur profane de la sagesse de ses ancêtres. Il dit « L'idée nouvelle, et encore moins la nouvelle idée critique, doit nécessairement commencer par une petite opinion minoritaire. Par conséquent, l'État doit étouffer ce point de vue dans l'œuf en ridiculisant tout point de vue qui défie les opinions de la masse. » Je n'ai même pas besoin d'expliquer ça, je veux dire, c'est juste écrit de manière incroyable. Il dit une autre force idéologique puissante est de déprécier l'individu et d'exalter la collectivité de la société. Je ne vois pas comment ce texte-là pourrait être plus actuel. Je veux dire, ça n'a absolument rien perdu. On le voit partout dans le monde quand on veut valoriser quelque chose au niveau de la société. Bon, ben, on l'a vu dans le débat sur les accommodements raisonnables, on l'a vu dans le débat sur la loi 21, la loi 101, et maintenant ce qui se passe avec le passeport sanitaire, c'est que l'individu, en fait, n'est pas important, c'est qu'une espèce de... En fait, l'individu, c'est comme... C'est une graine dans le carburateur. Hein? Mais tasse-toi du chemin, là. Hein? La fameuse phrase, tu retardes le groupe, tu nuis au groupe. Bon, mais c'est typique de comment l'État fait pour se maintenir au pouvoir, c'est de déprécier les individus et justement d'exalter la collectivité. Un passage très drôle. Il dit « Il importe aussi que l'État inculque à ses sujets une aversion pour toute théorie conspirationniste de l'histoire, car une recherche de conspiration signifie une recherche de motifs et une attribution de responsabilité pour des méfaits historiques. Une théorie du complot peut déstabiliser le système en faisant douter l'opinion publique de la propagande idéologique de l'État. » Donc, ce qu'il dit là-dedans, c'est que c'est pas que les théories complotistes, ça, sont vraies, mais il dit, c'est qu'en fait, il amène les gens à douter de ce que raconte le gouvernement. Mais donc, ça, c'est très mauvais pour lui. C'est très mauvais pour se maintenir au pouvoir. Un des moyens les plus efficaces pour étendre l'influence de l'État, c'est d'attaquer le rôle de, en fait, c'est d'attaquer le bien fondé du privé, dans le fond, du système privé. Et ça, là-dedans, le rôle de l'intellectuel est primordial. Donc, on va dire que le secteur privé, l'entreprise privée, c'est, bon, les gens là-dedans sont matérialistes, il y a de l'influence excessive, c'est l'exploitation, c'est le selfishness, c'est l'usure, c'est etc., etc. Donc, d'une manière ou d'une autre, la conclusion qui est toujours tirée de ce genre d'attaque du privé, c'est que davantage de ressources devraient être siphonnées du privé pour le ramener vers le secteur public. Donc, en fait, l'État utilise les intellectuels pour justifier un mode de prédation. Et il va dire, là-dedans, la science a un rôle à jouer. Donc, il dit, dans notre monde athée, le droit divin de l'État a été... En fait, le droit de l'État... qui était avant qu'il venait de Dieu, bon, là, avant le monarque, bon, ben, c'est Dieu qui m'a mis là. Ben, aujourd'hui, bon, comme on est athée, on est laïque, les dieux ont pu ce rôle-là. Ben, il dit, en fait, il y a un nouveau dieu qui est invoqué, c'est la science. Il dit, le pouvoir étatique est désormais proclamé ultra-scientifique, constitué d'une planification d'experts. Il dit, même si la raison est invoquée plus que dans les siècles précédents, ce n'est pas la vraie raison de l'individu et de son exercice du libre-arbitre. Elle est toujours collectiviste et déterministe, impliquant toujours des agrégats holistiques et une manipulation coercitive des sujets passifs par leurs dirigeants. L'utilisation croissante du jargon scientifique a permis aux intellectuels de l'État de tisser des apologies obscurantistes d'un régime étatique qui n'aurait suscité que la dérision de la population d'une époque plus simple. Un braqueur qui justifierait son fol en disant qu'il aidait vraiment ses victimes par ses dépenses en donnant un coup de fouet au commerce de détail trouverait peu de convertis. Donc, il met vraiment il insiste vraiment sur le rôle, en fait, un peu pernicieux que joue la science là-dedans. Donc, de quoi l'État a peur là-dedans? Il dit la mort de l'État, en fait, peut se produire de deux manières différentes. La première, c'est par la conquête d'un autre État. Donc, dans le fond, l'État se fait écraser par un autre système ou par le renversement révolutionnaire, soit par une guerre civile ou peu importe. Ou tout simplement en abdiquant pour toutes sortes de raisons, comme ça s'est passé en URSS. Donc, il dit « Tous les moyens doivent toujours être utilisés pour mobiliser le peuple à venir à la défense de l'État dans la conviction qu'il se défend lui-même. » Donc, avec l'idée que nous sommes l'État, c'est nous. Donc, il dit « Le sophisme de l'idée devient évident lorsque la conscription est exercée contre ceux qui refusent de se défendre et sont donc contraints de rejoindre la fanfare militaire de l'État. Inutile d'ajouter qu'aucune défense ne leur est permise contre cet acte de leur État. » Donc, il dit « En fait... » Il y a vraiment quelque chose d'absurde dans cette manière de voir les choses-là. Puis là, c'est là qu'il dit, en temps de guerre, bien, le pouvoir de l'État est poussé à son paroxysme avec tous les slogans « l'urgence »,« la défense », »,« le bien public ». Donc, il dit, il peut imposer au public une tyrannie à laquelle on pourrait ouvertement résister en temps de paix. Il conclut en disant, de même que les deux interactions fondamentales et mutuellement exclusives entre les hommes et la coopération sont la coopération pacifique ou l'exploitation coercitive, la production ou la prédation, de même que l'histoire de l'humanité, en particulier son contexte, son histoire économique, peut être considérée comme une lutte entre ces deux principes. Alors que le pouvoir social est sur la nature, le pouvoir de l'État est le pouvoir sur l'homme. Donc, l'homme à l'état nature, qu'est-ce qu'il fait? À l'État pré où il y avait avant qu'il y ait des États, des gouvernements, ben ensemble, on développe nos skills, on développe notre arsenal de capacités, on développe nos échanges, nos économies, et on agit ensemble sur la nature. On développe des choses, on découvre l'âge de pierre, l'âge de bronze, etc. Mais quand l'État arrive, c'est quoi qui est développé? C'est le pouvoir sur l'homme. Donc, ça fait pas mal le tour pour ce petit texte-là de Rothbard. Je vous le dis, c'est un texte fabuleux. Je vous l'ai résumé dans les grandes lignes. Puis c'est sûr que je vais le relire à un moment donné parce qu'il porte énormément à réfléchir. Murray Rothbard, Anatomy of the State. Je pense que c'est vraiment un texte intéressant. Puis je vous le suggère absolument. Nous autres, on se reparle d'un prochain podcast. Ciao.
I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed, or numbered. My life is my own.